L'écho des gnous, votre vie dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 296e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Après un bon week-end pascal il y a deux semaines, on se retrouve avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Et bonsoir à tous. On va donc vous expliquer l'actualité des deux semaines écoulées. Quatre semaines écoulées, voilà, ça c'est les vieux réflexes. Donc on commence tout de suite et on va, comme de coutume, entamer avec les actualités internet et vie privée et la suite d'une news qu'on vous avait donnée il y a un mois et demi, deux mois maintenant. C'était un procès donc qui opposait une jeune Californienne, Kylie GM, 20 ans, à Google et Meta, donc enfin Google et Meta, donc Meta étant la maison mère de Facebook. Alors, on aurait dû dire Meta et Alphabet au final, mais bon. Peut-être une nuance au niveau des entités juridiques poursuivies qui m'échappe. Et donc, elles ont été condamnées, elles ont été très sévèrement condamnées. Donc, 4,2 millions de dollars d'amende à verser par Meta et 1,8 million de dollars à verser par YouTube. Bien évidemment, ces deux sociétés vont faire appel du jugement. Donc, ils estimaient que tout a été fait
dans les règles.
Dans les règles. Nonobstant le fait qu'il est apparu lors de l'instruction qu'une enquête qui avait été faite, enfin, une étude qui a été faite par l'entreprise Meta, donc sur le caractère addictif de leur plateforme, a été soigneusement enterrée.
Très, très délicatement.
Hein, et YouTube se retranche derrière le fait que c'est une plateforme de visionnage, une plateforme de streaming, et non pas un réseau social. Ce qui pose quand même, ceci dit, une bonne question, qu'est-ce qu'un réseau social ?
Tout à fait. Puis. De la part de Google, ça a été un peu du foutage de gueule, puisqu'ils ont, à plusieurs reprises, cherché justement à transformer YouTube. Si on parlait du YouTube d'il y a 20 ans, parce que ouais, YouTube a 20 ans. Le YouTube d'il y a 20 ans, c'était pas forcément un réseau social, mais effectivement, aujourd'hui...
Il y a des commentaires, on s'abonne à des chaînes...
Voilà, on s'abonne, on suit des gens, on suit des chaînes, donc n'importe qui peut aller publier du contenu.
Et il y a le côté, alors pas scroll infini, mais lecture infinie.
Il y a carrément...
C'est pas du scroll, ouais. C'est pas du scroll, c'est de la lecture, voilà. Mais je veux dire, c'est dans la même
veine. La suggestion automatique, effectivement, partout. Donc il y a tout ce qui fait un réseau social, entre guillemets, moderne et surtout addictif, tout ça, c'est présent sur YouTube, donc... Bah en fait non, c'est un réseau social, point.
Et c'est pas fini, il y a 2500 procès du même type qui sont donc en attente aux États-Unis et Mark Zuckerberg a été condamné à 375 millions de dollars d'amende. Là, c'était des dommages intérêts à verser, là c'était une amende à verser donc je suppose à l'État fédéral pour des faits du même type.
Exactement. Donc à suivre, sachant que là ce qui est intéressant aussi c'est que maintenant qu'il y a eu une première condamnation, il y a la possibilité que ça fasse jurisprudence. Là, ça deviendrait rigolo. Enfin, rigolo, façon de parler.
Ce qui est rigolo, c'est qu'après... Donc là, on a parlé de Meta, on a parlé de Google, Alphabet. Maintenant, on va parler de Monsieur Musk, notre ami libertaré, qui sera convoqué, qui est convoqué demain devant les juges d'instruction... Enfin, le... Pardon.
Devant le juge.
Ah, devant le juge, c'est... monsieur. Devant le parquet de la chef de section de lutte contre la cybercriminalité, donc pour une audition libre. Un peu.
Voilà, donc il va choisir
c'est
librement
pas Chirac,
de ne
Chirac,
pas venir.
Chirac, c'était témoin assisté, là c'est une audition libre, donc il va librement décider de ne pas venir. Ce qui fait suite notamment quand même à la perquisition des locaux de X en France. Donc il y a quand même une instruction qui est en cours. Les deux faits qui sont reprochés, c'est l'utilisation ici de données personnelles pour la publicité ciblée. Bon, là, pour le coup, c'est pas le seul. En revanche, une infraction qui est un petit peu... Alors, dire que c'est pas le seul à essayer, mais c'est le plus gros poisson. C'est la manipulation donc de son algorithme et de son IA, gros que son IA nazi, pour influencer le débat public. Et on sait dans quel sens. Et donc, ce qui est intéressant d'un point de vue... juridique, c'est que pour ceci, le parquet va donc utiliser une loi de 1988 et donc un terme qui n'a jamais été encore utilisé, c'est la notion de falsification du fonctionnement d'un système informatique. Oh. Ça existait dans la loi.
Je savais pas si
ça existait. Presque 40 ans que ça existait, ça n'a jamais été utilisé. Donc,
grande nouveauté juridique.
Voilà, voilà,
On va être aidé, c'est bien.
Donc là, c'est un peu une espèce de plongée dans l'inconnu, comme le dit l'article du Monde, donc, qui narre les aventures de M. Musk et de la justice française. Donc, encore affaire à suivre. Donc,
Le prochain épisode, enfin l'épisode de cette semaine, avec la juste bonjour, est-ce que vous pouvez venir ? Il va répondre non, et voilà.
C'est le premier stade. Et donc, s'il planait quand même sur cette enquête, hein, c'était l'affaire Thierry Breton, qui était avec il est commissaire européen, qui était interdit de séjour aux États-Unis. Et on se souvient qu'un juge français.
Il n'est pas que interdit de séjour aux États-Unis. Thierry Breton, si.
Panoplie complète d'un juge de la Cour.
La CPI, ouais.
La CPI, la Cour pénale internationale, où lui, c'était pas le droit d'utiliser tout service américain, donc les cartes de crédit notamment.
Visa, Mastercard, interdit. Apple, enfin,
c'était un peu gros sur le commissaire européen, quand même.
Oh, ouais. Ah. Peut-être. Pour l'instant.
On continue avec. On va parler un petit peu d'IA. L'IA.
Oui.
Donc, alors, si je comprends bien, c'est pas l'IA qui a halluciné. Enfin. On lui a suggéré donc une fausse maladie et là pour le coup il a complètement halluciné derrière et donc
tout à fait. Alexandre, as-tu déjà entendu parler de la Bixonymanie?
Non, tu l'as mis dans le titre de ta news, mais effectivement c'est un terme qui est nouveau pour moi et je pense que tu peux l'expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices.
Tout à fait, ce serait un trouble caractérisé par des douleurs oculaires et un assombrissement du contour des yeux provoqué par la lumière bleue des écrans. Alors avant que vous ne paniquiez, Cette maladie a été décrite une première fois dans un article sur le site Medium, dont le titre était « Combien de gens souffrent de Bixonymanie ?» Et un peu plus tard, en avril 2024, un article a été publié sur un site de publication universitaire avec des faux auteurs. C'est vraiment n'importe quel humain qui lit l'article sait que c'est un faux.
À ce moment-là, même quelqu'un de très peu cultivé en manière médicale.
Oui, parce que est écrit que on remercie le professeur Maria Baum de la Starfleet Academy et pour sa générosité et sa contribution pour ses connaissances et son labo au sein de l'USS Enterprise. On a déjà une belle référence à Star Trek.
Tu sais qu'on a quand même des hommes et des femmes politiques qui ont sorti sérieusement des articles du Gorafi.
C'est vrai.
N'est-ce pas, Madame Christine Boutin?
Voilà, c'est pas la seule.
Donc il y en a.
Comme il a été indiqué que ça a été publié par des gens donc dans des universités qui n'existent pas, par des gens qui n'existent pas, que l'étude a été faite sur des gens qui n'existent pas.
Alors,
ça a été écrit dans le texte de l'article.
Rien à voir avec le sujet. Pour le coup, qui était vraiment un vrai universitaire, qui a réussi à tromper tout le monde et qui s'est inventé une récompense dans la philologie. Et il s'est inventé une récompense, il a réussi à faire venir Noam Chomsky et en fait, plusieurs responsables politiques sont venus, il y a eu des articles dans les journaux, en fait, il avait absolument tout inventé. Des fois, plus c'est gros, plus ça passe. Très bel article dans Le Monde, d'ailleurs.
Et donc, les articles en question ont été retirés, évidemment, maintenant, parce que, en fait, c'était des articles qui servaient vraiment à faire une expérience, et l'expérience a été plus que concluante, puisque, aujourd'hui, maintenant, quand on lance une recherche, quand on demande à Microsoft Copilot, il déclare sans problème la Bixonymanie est une condition rare, relativement rare, et effectivement c'est une condition assez, symptôme assez intrigant.
Gemini
indique que c'est
elle tient dans la main.
Exactement. Et donc le plus choquant, c'est que des chercheurs en Inde ont publié un papier de recherche qui cite le papier de recherche faux initial. Dans une revue validée par des pairs. Donc on est sur un niveau où donc des IA sont tombées dans le panneau et a priori des chercheurs ont utilisé une IA et sont tombés dans le panneau.
Oui, alors ça, c'est pas les, oui, ça, c'est pas les premiers.
C'est pas les premiers.
Il y a eu, d'ailleurs, c'était, je crois, l'université de Gand ou Anvers, une université belge flamande, où la présidente s'est fait prendre la main dans le sac, à avoir halluciné des propos. Enfin, son discours, en fait, a été rempli d'hallucinations d'une intelligence artificielle.
Mais donc, en tout cas, voilà, c'est encore la preuve que l'IA, c'est quelque chose que je répète à chaque émission, l'IA n'est pas intelligente, l'IA ne comprend pas. Des notions comme l'ironie, ce genre de choses, c'est, il faudrait que les articles soient déjà classés dans son apprentissage. Enfin, c'est compliqué à identifier. C'est dur de savoir ce que c'est de l'humour, c'est dur de se rendre compte que ça, c'était une blague. L'IA n'est pas intelligente. Et donc, vouloir lui confier des analyses médicales, ben, elle va pouvoir tomber dans le panneau et inventer et croire des fausses maladies. C'est, l'IA pourrait très bien croire que les vaccins donnent l'autisme. Il n'y a pas de problème. Puisque c'est l'autre taré qui l'a dit.
Ouais. Pas de souci. Pas un seul taré. On a déjà parlé du sujet, il me semble. C'est la charge de vérification de l'âge par le système d'exploitation.
Oui, et c'est en train de s'aggraver. C'est un sujet qui est relativement chaud en ce moment. Donc, je vais juste en parler un tout petit peu, mais je pense qu'on va devoir faire un point d'ici la fin de la saison sur où est-ce qu'on en est. En gros, il y a quelques semaines, il y avait déjà des premiers articles qui avaient commencé à être publiés pour se plaindre que, notamment sous Linux, c'est Systemd qui intégrait, alors non pas la vérification de l'âge, mais la possibilité de renseigner l'âge sur les utilisateurs sur le système. Mettons, vous pouvez indiquer que l'utilisateur Marcel, il était né à telle date, que Toto était né à telle date, etc. Pour moi, cette fonctionnalité-là était insignifiante, parce que clairement, c'est quelque chose qui existait déjà avant avec d'autres outils d'authentification, genre LDAP. Donc c'était quasiment un non-événement. Par contre, ce qui était déjà un peu plus important, c'est que sur le XDG Desktop Portal, donc clairement, un peu compliqué à expliquer, mais grosso modo sur les API exposées aux applications, il y avait une fonctionnalité de vérification de l'âge qui était en cours de développement. Ça déjà, c'était... Est-ce que c'est allé trop loin ou pas? Je sais pas. Sachant que tout ça, ça peut être ajouté, et là, c'est un usage qui est légitime, et c'est un vrai manque sur le bureau Linux par rapport à ce qu'on peut trouver sur du Windows ou du macOS, et vis-à-vis de certaines lois, c'est vrai que ça peut devenir nécessaire. On n'a pas de système de contrôle parental complètement intégré. Alors, un utilisateur non administrateur n'a pas accès à des fonctionnalités avancées, donc normalement, cet usage-là est suffisant. Mais c'est plus compliqué à mettre en place que le contrôle parental qui est intégré. Même si, à mes yeux, ça marche mieux. Ça, c'est un autre débat.
Après, il faut savoir aussi administrer sa machine.
Tout à fait. Mais la question, c'est si ça devient obligatoire, quoi qu'on fait? Et si ça devient obligatoire, là où il y a un vrai souci, c'est la différence entre déclaration et vérification.
Oui, ça aurait la même valeur que « oui, je suis bien majeur ».
Exactement, sauf que là, on tombe sur un autre problème. En fait, est-ce qu'un mineur doit être administrateur de sa machine ou non? C'est le... En fait, finalement, c'est ça la question.
Mineur, ça peut être 10, 12, 14, 16.
Ah, oui, c'est pas... mais voilà. Est-ce qu'il a le droit d'être administrateur de sa machine? C'est la seule question. À partir du moment où il est administrateur, de toute façon, tous ces trucs-là tombent à l'eau. Il n'y a rien qui peut fonctionner si quelqu'un est administrateur. Donc, à mon sens, ça ne peut être que de la déclaration d'âge. Et après, effectivement, si vous êtes bidouilleur et que vous avez 12 ans, effectivement, rien ne vous empêche de recompiler un navigateur web pour pour contourner complètement la vérification d'âge dedans, si c'est géré par l'OS. Il n'y a rien, techniquement, qui ne peut l'empêcher. Sauf à interdire le logiciel libre, ça va être aller un petit peu trop loin. Donc à suivre là-dessus. Non, non, je ne vais pas donner de mauvaises idées, ils en ont déjà plein.
Alors, il y a eu une mode chez les IA, et, pas forcément les IA d'ailleurs, mais aussi ceux qui aiment les dites putaclic, c'est d'utiliser des articles relativement sérieux. Je crois que la chaîne Météo d'ailleurs avait râlé là-dessus et en faire dire n'importe quoi. Là, Google et sa fonctionnalité d'IA, l'article dit n'importe quoi en réécrivant automatiquement le titre de l'article quand on fait une recherche sur Google.
Tout à fait. Alors celle-là, j'ai trouvé quand même très très drôle.
Déjà qu'il y a cette manie agaçante de Google quand on fait une recherche, il donne la réponse à 10 questions complètement cons qu'on ne s'est pas posées.
Exactement. Si vous voulez, si vous vous posez des questions que vous ne vous posez pas, pas de problème. On va les mettre quand même. Et donc là, on a des exemples. Alors, c'est le site d'actualité américain, alors The Verge, qui, alors là, là, je vais juste donner les exemples. Je vais vous les traduire en direct, approximatif. Donc, Microsoft change la marque Copilot de la façon la plus Microsoft possible. Titre réalisé par Google. Changement de Copilot. L'équipe marketing s'y attaque à nouveau. Ce qui est effectivement plus putaclic, surtout avec la formulation exacte en anglais. Je ne suis pas le meilleur en traduction. Et de l'autre côté, j'ai utilisé un outil d'IA pour tricher sur tout, et ça ne m'a aidé à tricher sur rien.
C'était traduit en outil IA, tricher sur tout.
Outil d'IA pour tricher sur tout. Ce qui est complètement faux. Alors, l'excuse de Google, plutôt la réponse, c'est « Non, non, c'est une expérience modeste et limitée qui n'a pas encore reçu l'autorisation d'être déployée à plus grande échelle. » En gros, leur idée, c'est de mieux faire correspondre les titres aux requêtes des utilisateurs et faciliter l'interaction avec le contenu web. Donc, et dernière excuse, ils ont dit « Oui, non, mais si on devait réellement lancer un produit basé sur cette expérience, ça n'utiliserait pas de modèle génératif et nous ne créerions pas de titres à l'aide de l'IA générative,
ça
voyons. »
Ce qui fait peur à Google, c'est que c'est de plus en plus mauvais, Google. Ils répondent, ils donnent des solutions à des problèmes qui ne se posent pas. Ils te créent d'autres problèmes.
Oui, et là, celle-là de manipulation, je la trouve assez choquante, puisque du coup, vous avez un lien qui est juste faux. Je comprends pas. Le lien est vers un article qui n'est... Enfin, moi, j'ouvre le lien, l'article ne correspond pas au lien, je bloque un peu. Je comprends pas. Et en l'occurrence, là, de la part de The Verge, donc déjà, il y a deux aspects dans leur réponse. Déjà, ils sont choqués parce que, ben, eux, ils choisissent leur titre. C'est pas un titre qui a été choisi au hasard dans leur outil quand ils ont édité leur article, c'est un titre qui a été choisi sciemment.
C'est un choix éditorial, oui.
Voilà, c'est un choix éditorial. Il y a des blagues, il y a des sens cachés, il y a de la finesse que d'ailleurs je perds à la traduction parce que je sais pas traduire ça, je suis pas traducteur. On pourrait en parler longtemps des problèmes de traduction qui arrivent de plus en plus. Et le deuxième aspect qui est aussi problématique, c'est lié à ce travail qui est fait sur le titre. Mais en fait, Diverge, ça fait partie de leur travail de faire un titre pour promouvoir le contenu.
Oui, ils dénaturent le travail. Alors, on sait qu'il y a toujours entre Google et les médias, entre les médias, la presse écrite, notamment des conflits sur la prise en compte. Est-ce que qui doit payer pour qui? Est-ce que c'est Google qui doit payer les médias? Est-ce que c'est les médias qui doivent payer pour Google parce qu'ils mettent les articles en avant? Ça, c'est un vieux débat. Mais alors là, ils se permettent de dévaliser le travail éditorial d'un média.
Et pour finir, ils vont jusqu'à mentir. Donc là, par exemple, un article qui parlait du fait que sur une semaine, un détaillant allemand avait vendu plus de cartes graphiques AMD que de cartes graphiques Nvidia. C'est de l'information qui n'est intéressante que pour, je pense, les investisseurs. Je vois pas trop qui d'autre ça peut intéresser. Hein. Et donc là, le titre avait été... Enfin, le titre Google était AMD devance Nvidia en matière de GPU. Ça n'a rien à voir, c'est juste faux, c'est une pure hallucination. Donc, c'est à la fois, ça crée des titres de merde, il n'y a pas d'autre mot, et en plus,
inexact.
Ça supprime c'est inexact, et ça supprime la liberté des éditeurs de choisir ce qu'ils font. Ça les prive de leur travail, je trouve ça assez choquant.
Ce qui n'est pas trafiqué, c'est le titre du prochain morceau de musique que nous allons écouter. Nous allons donc entendre tous ensemble Fabio Maggi, Favola. Vous écoutez les codes Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com.
È una notte nera. Non ci sono stelle nel cielo. Il mare è buio. E due cuori distanti sognano una vita diversa. Chissà cosa avrà in serbo per loro il destino.
Guarda
questo cielo, com'è strano, sopra questo mare nero, mare nero, come me e le nuvole sembrano pensieri confusi e strani come me, e nei miei pensieri improvvisamente ho deciso di cercarti, amore mio, e ti scriverò poche parole, ma con amore che ti porti a me. E le mie parole attraverseranno questo mare nero, sperando che ti innamorerai di questo uomo che da lontano sta cercando te.
C'était Fabio Maggi, Favola, vous écoutez les Codes et nous sur Radio Campus. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation. Comme vous savez, les Codes et nous est une mission proactive qui tient à continuer à accroître son leadership sur les technologies émergentes, donc avec l'émergence des fintech et donc l'apparition donc de la Startup Nation. Nous allons donc les prochaines émissions seront donc conçues à partir d'une IA, évidemment développée par Pierre, une IA libre, démocratique.
L'IA des gnous.
L'IA des gnous.
Exactement. Alors, on va être un petit peu plus sérieux tout de même. Je vais vous expliquer, effectivement, cette émission est la première pour laquelle j'ai utilisé, je le reconnais sans problème, une IA pour gagner un petit peu de temps et avoir un avis externe pour la réalisation de l'émission. C'est vrai, j'ai utilisé une IA. Maintenant, pour ça, je vais d'abord commencer par expliquer un petit peu quand même le faisant de cette émission. Comment que je fais? Ben, pour faire les brèves, en fait, les actualités, le gros du travail, ben, en fait, je prends mon lecteur de flux RSS, je prends les X dernières semaines d'actualités sur LWN, Foronix, LinuxFR, Next Impact, Slashdot régulièrement, OS News, quelques autres, et je prends aussi ce que moi j'ai vu dans les actualités qui m'a marqué ou que j'avais déjà noté sur le côté.
Bon, en général, le monde, c'est moi.
Le monde, c'est toi, oui. Voilà.
Et ce qui se dit hors dehors des sphères.
Voilà. En dehors des sphères informatiques, moi je suis branché sur les flux RSS et voilà, je bouge pas de ça. Et donc, je fais ma sélection, je fais ma petite popote. Sauf que ça prend quand même du temps de reparcourir. Là, j'ai quand même parcouru 4 semaines d'actualité, 1 mois d'actualité. C'est beaucoup de volume, surtout pour en sortir 20 articles, quoi. C'est un peu de travail.
Et dont la moitié, les 2/3 sont présentés lors de l'émission.
En plus.
On fait du tri en direct.
On choisit un petit peu ce qui passe le mieux. Du coup, il y a une partie qui pourrait être faite par une IA. Voyons, l'IA pourrait tout simplement prendre les dernières semaines d'actualité et trier, dire ça correspond au contenu de l'émission, ça on s'en fout. Par exemple, dire tel nouveau pilote a été introduit dans le noyau Linux en cours de développement, ça intéresse personne, ce genre d'actualité, je n'en parlerai pas. Par contre, tel nouveau logiciel, telle nouvelle version de Plasma ou telle nouvelle version d'Ubuntu est sortie, celle-là, c'est intéressant. On est sur une problématique en fait de classification de texte. Un texte peut être classé comme intéressant pour l'émission ou non. Et du coup, maintenant, là, c'est là où on va diverger par rapport aux IA classiques. Les IA classiques, ce qu'on développe énormément, ce qu'on met en avant énormément en ce moment, c'est notamment les LLM. Donc, c'est des IA monstrueuses. On a pris un truc énorme, on lui a injecté des téraoctets de données pour que ça commence à avoir des semblants de connaissances en fait des phrases, de comprendre que des mots sont liés ensemble. Noyau, Linux, c'est deux mots qui sont souvent liés ensemble. Linux est un noyau en fait, un noyau, on a Linux par exemple. Ça fonctionne comme ça, c'est un système d'association entre guillemets d'idées, d'association de mots, de notions. Mais ça, c'est compliqué. C'est vraiment hyper compliqué. Il faut beaucoup de volume pour lui apprendre. Il faut beaucoup de temps pour lui apprendre. Et derrière, il faut beaucoup de ressources aussi pour garder le modèle en mémoire et pour être capable de l'exploiter. Là, l'IA que j'ai développée, le programme tient en 70 lignes de Python, en utilisant que des modules de la bibliothèque Python standard, plus un module pour aller lire les requêtes, faire des requêtes sur le web parce que il faut bien qu'il apprenne, le pauvre bout de chou.
C'est une IA qui est assez slim tout de même.
C'est une IA qui pourrait tourner, je pense, sur une Raspberry Pi 1.
On optimise les ressources ici, monsieur.
Ah ouais, là, celle-là, elle est très optimisée.
On optimise les ressources pour les investisseurs, bien évidemment.
Et donc, l'IA.
Lien vers des crypto-monnaies, son nom.
Je n'ai pas encore publié le code juste parce qu'il faut que je documente en plus comment ça fonctionne quand même. Mais l'IA est extrêmement simple et, malgré sa simplicité, le résultat était vraiment satisfaisant et donc je vais vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne. Donc, toute IA a deux phases, la phase apprentissage et la phase utilisation. Donc, commençons par la phase d'apprentissage. C'est très simple, j'ai fait un petit ça fait partie des 70 lignes, c'est une phase qui est très bête, qui prend les 50 dernières émissions, donc qui va sur le wiki de Chlinux avec ses petits doigts, et qui va lire les articles qui avaient été sélectionnés pour les 50 dernières émissions, et qui prend tous les articles. Alors, je l'ai entraîné pour l'instant que pour le site de Foronix, donc il faudra que je l'étende pour gérer les autres sites, qui prend tous les liens vers des articles de Foronix, qui va sur le serveur de Foronix, qui demande le contenu de l'article, et qui fait moulinette magique. Je parle de la moulinette magique juste après. Et la partie utilisation, après cet apprentissage, donc la moulinette magique a produit quelque chose que je peux sauvegarder, et la partie utilisation, eh ben, je prends les X derniers articles du Foronix, depuis mon lecteur de flux RSS que j'ai patché pour l'émission il y a 10 ans et que j'ai jamais pris le temps de contribuer le patch, désolé. Et donc, ça prend les derniers articles du site de Foronix, pour chacun, ben, ça télécharge le contenu de l'article, ça le passe dans la moulinette et ça me donne un score. Aussi simple que ça. Maintenant, quelle est cette moulinette ? Finalement, c'est là qu'est... En fait, l'intelligence, c'est là où ça permet de bien illustrer la chose. L'intelligence...
Donc, voilà les données qui nourrissent.
Voilà.
C'est important, ça nourrit une LLM.
Ben oui, et en fait, je considère, et beaucoup de gens considèrent, que une IA libre, on a besoin de savoir exactement quelles données l'on nourrit. Parce que si je vous donnais le produit de l'apprentissage, vous pourriez certes lui faire apprendre des nouvelles choses, mais vous sauriez pas quel a été le cadre d'apprentissage initial, vous comprendriez pas forcément la logique de la chose, pourquoi elle fait certains choix. Et donc maintenant, pourquoi cette moulinette, déjà elle est rapide, et pourquoi elle est aussi simple ? Et ben en fait, la moulinette en question, c'est juste de la compression. En fait, l'algorithme de compression, alors là c'est ZSTD qui a été utilisé, qui est implémenté dans les dernières versions de Python, avec surtout une petite fonctionnalité en plus qui a été bien pratique pour ça. ZSTD, donc de son vrai nom Z standard, c'est un algorithme de compression qui a un système incrémental, donc on peut lui apprendre des choses au fur et à mesure, et en fait la compression, c'est assez simple. Là, dans ZSTD, l'un des éléments clés, c'est d'avoir un dictionnaire pour sa compression. C'est des choses qu'il a déjà vues, et du coup, il sait que, ah ouais, ça arrive souvent, donc ça, il faut vraiment que je le compresse sur le truc le plus petit possible. Ça, c'est rare, donc c'est pas grave si ça prend un peu plus de place. Ça, c'est l'algorithme de compression. Mais ce que je viens de décrire, ben en fait, c'est un algorithme de classification aussi. Ça arrive souvent, hop, ça a une bonne note. Ça arrive pas souvent, on s'en fiche. Et la note, ben c'est juste le taux de compression. Donc, ce que fait ce programme, c'est extrêmement simple, et c'est pour ça que c'est d'une vitesse incroyable. C'est tellement incroyable que c'en est à peine croyable, si je puis me permettre la citation d'un grand philosophe. Hein, papa en prison. Allez, courage. Donc, ça fonctionne vraiment c'est bidon la partie exploitation. Je vais sur le site de Foronix, je prends le texte de l'article, j'essaye de le compresser et je regarde le pourcentage de compression. Plus c'est compressé, plus c'est intéressant. Et donc je classe tous les articles par taux de compression. Ça marche très bien. Vraiment, il y a un ou deux articles quand je l'ai testé sur l'émission précédente, il y a un ou deux articles qu'il sélectionnait pas, alors que moi je les avais sélectionnés. Il y a un ou deux articles qu'il sélectionnait que moi j'avais pas pris parce que effectivement, il a pas capté des nuances. Par exemple, il capte pas que ben ça c'est un truc qui est en cours de développement et j'annonce rarement ce qui est en cours de développement. J'annonce quand c'est sorti. Ça, cette nuance-là, il peut pas l'avoir. Et j'avoue que un LLM ne l'aurait pas forcément non plus. Il pourrait ne pas s'en rendre compte de cette nuance-là. Le résultat est vraiment très bon et c'est d'une simplicité crasse.
Mais là, parce que une IA LLM, c'est censé être polyvalent. Là, tu l'as.
Mais oui.
Là, tu l'as conçu pour un usage quand même particulier qui est
réaliser notre émission. Voilà. Et c'est, mais c'est là justement, c'est là où quelque chose qui échappe à beaucoup de monde. On n'a pas besoin. Je comprends pas.
Une espèce de IA washing. On a l'impression que tout traitement automatisé de données devient de l'IA, en fait.
Mais c'est de l'IA. C'est de l'intelligence artificielle, c'est du machine learning. Je n'ai pas appris à la machine à reconnaître un texte intéressant pour les codes GNU. Je ne lui ai pas appris ça. Je lui ai fait apprendre à reconnaître un texte. J'ai écrit un programme qui prend un ensemble de textes et qui en déduit le critère nécessaire. C'est ça, elle a appris toute seule. Toute seule. J'ai fait un programme qui a appris quelque chose à la machine. Je ne saurais pas produire ce résultat sans cette phase d'apprentissage. C'est une IA. Ce n'est pas une IA énergivore, mémorivore, c'est pas une IA dégueulasse qui a pour but de résoudre tous les problèmes du monde. C'est une IA simple, efficace, pour résoudre un problème. Et c'est bien la différence par contre avec les ChatGPT, les Grok, les Gemini, les Copilot et tous ces,
Est-ce que tu as utilisé dans les librairies utilisées, il y a des choses qui sont nouvelles ou en gros, tu aurais fait un programme que tu aurais pu faire il y a 20 ans ?
Alors, c'est un programme que j'aurais pu faire il y a 20 ans.
Voilà. C'est juste que...
Là, il a été plus simple à faire parce que ça a été intégré dans Python, c'est un poil plus facile.
C'est-à-dire l'émergence de l'LLM t'ont donné l'idée, mais en fait, tu aurais pu le faire.
Alors, l'idée n'est même pas originale. Il y a des articles qui ont déjà été publiés sur l'utilisation d'algorithmes de compression pour faire ça. C'est juste que là, ce qu'il y a d'original, c'est de l'avoir utilisé pour les codecs GNU et d'avoir couplé ça à mon lecteur de flux RSS pour la classification à l'archive des émissions pour l'apprentissage, pour automatiser tout ça. Mais je vais pouvoir publier le code, il n'y a rien de savant là-dedans. Je vais essayer de bien le documenter, comme ça, je pense que je le mettrai même en article sur le site de l'émission, comme ça, tout le monde pourra s'amuser à regarder ça. Et donc, cette solution-là, donnons crédit à ceux qui en ont parlé, donc c'est un geek, Max Alford, qui a fait un article en fait, sur l'idée d'utiliser... Alors, spécifiquement le module ZSTD de Python, parce que moi je ne l'avais pas encore vu passer parce que c'était trop récent. Et c'est dans une publication Artificial Intelligence, a Modern Approach, 4e édition, de Stuart Russell et Peter Norvig, que cette démarche d'utiliser les systèmes de compression pour la classification de texte a été mise en avant. Parce que c'est de l'IA, mais on n'a pas besoin de trucs de barbares, on n'a pas besoin de 4 GPU ou de je sais pas combien de teraoctets de mémoire pour tout stocker. C'est simple, ça pourrait même fonctionner sur un Pentium 3 d'il y a 20 ans. Parce que c'est... Il n'y a pas besoin de plus. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est complètement perdu aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a cette course à la consommation. Il faut absolument consommer, c'est bien. Si on ne consomme pas, c'est qu'on est mauvais. Non. Si on ne consomme pas, c'est peut-être justement qu'on a bien réfléchi.
Merci Pierre pour cette mise en perspective. Nous allons écouter Kinématique, Don't Be Afraid. Vous écoutez les codecs GNU sur Radio Campus en 6,6, à la radio numérique terrestre et campusil.com.
It's the setting sun for the season, you know. Everyone sees the starlight go. Don't be afraid, don't be afraid, don't be afraid. When you're falling down, first day of school, everyone feeling all confused. Don't be afraid, don't be afraid, don't be afraid. The setting sun from the season, you know. Everyone sees the starlight go. Don't be afraid, don't be afraid, don't be afraid.
C'était donc Kinematic, Be Afraid. Vous écoutez les Codex News sur Radio Campus en 6,6. On continue avec des actualités sécurité et les États-Unis qui bannissent les routeurs qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Prochaine étape, on va se mettre sérieusement à fabriquer des routeurs.
Alors, on a des. Alors, les routeurs. C'est un peu bizarre, je trouve, de bannir ça comme ça. Maintenant, il y a de vraies raisons, effectivement.
Je trouve qu'en plus, c'est eux qui se sont fait choper à avoir patché matériellement des routeurs Cisco.
Ils sont connus pour avoir fait ça. Maintenant, leur cible, ils avaient déjà ciblé des entreprises par le passé. Il y avait déjà Huawei, ZTE, Itera, Hangzhou Hikvision, Dahua, Kaspersky Lab, China Mobile, China Telecom, Pacific Networks, China Unicom. Il y avait toutes ces entités-là qui avaient déjà des grosses restrictions. Mais là, désormais, tout nouveau modèle de routeur qui veut être vendu aux États-Unis doit avoir été fabriqué aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est juste de la sécurité ou est-ce que c'est aussi un petit peu pour s'assurer que les choses soient fabriquées aux États-Unis et en fait, c'est du bon gros patriotisme économique?
Oui, sauf que ce genre de produits électroniques, je pense pas que les États-Unis en produisent encore des masses désormais.
Ben, ils vont peut-être en produire un peu plus, ouais. Du coup.
Je sais pas où produit Cisco, mais...
Et ça veut dire quoi, fabriquer? Au bout d'un moment, j'ai besoin de savoir, parce que sais pas.
Ah, c'est comme les automobiles, au final. Hein. C'est l'assemblage. Ou est-ce que de l'assemblage?
Est-ce qu'une entreprise qui met la carte électronique dans un boîtier et qui ferme, et qui dit, voilà, ça a été fabriqué aux États-Unis, est-ce que ça marche? Ou est-ce qu'il faut avoir acheté les puces, soudé les puces, mis la carte dans le boîtier, fermé le boîtier, ou est-ce qu'il faut avoir fabriqué les puces? Ça va jusqu'où? Ça, c'est pas clair. Et en fait, les conséquences, elles vont être assez amusantes, parce qu'une chaîne de fabrication comme ça, selon le niveau qui est demandé, justement, ça va pas être instantané à mettre en place. Ça va prendre du temps, et donc là, bah, pendant un certain temps, les petits routeurs vont être légèrement difficiles à obtenir aux États-Unis. Sachant que, pour rappel, hein, nous, en Europe, en tout cas, nous avons à minima la société Microtik qui produit des routeurs en Europe.
Ah, il y avait Alcatel qui produisait des routeurs, il fut un temps.
C'est vrai. Ah, alors, Microtik, pour information, c'est en Lettonie, voilà. Donc, je fais pas leur pub, hein, c'est des produits qui sont beaucoup plus... Enfin, c'est pas des produits grand public, forcément.
Hein. En même temps, les routeurs, c'est rarement des produits grand public. Voilà. Le grand public, il a rarement besoin d'un routeur, quand même. En général, un switch...
Un switch ou deux en plus, oui, des routeurs, c'est assez rare parce qu'en fait, on est en France. Il y a une future déguicalisation sur le sujet, mais quand j'en aurai envie.
Tu parles d'une date, en fait.
Non. On est en France. En France, nous avons des opérateurs fibre parce qu'on a la fibre partout et chaque opérateur fournit un routeur. Voilà. Aux États-Unis, c'est la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Aux États-Unis, ils rêvent d'avoir la fibre. Ils sont très loin d'aller voir la fibre parce que saint capitalisme, saint marché libre, priez pour nous, tant pis pour vos gueules.
Bon, après, la densité de population des États-Unis et de la France et de l'Europe de manière générale n'est pas la même non plus.
Ouais, enfin, quand même, dans les grandes villes, ils n'ont pas tous la fibre, il y a un problème. Voilà. Merci les US. Mmh. Donc, à suivre, hein, je me demande comment ça va se passer effectivement, mais. En Europe, on serait peut-être bienvenu de se concentrer aussi sur les fabricants qu'on a en Europe plutôt que d'acheter du Cisco, du Netgear ou ce genre de choses. Peut-être.
On retourne en Europe d'ailleurs, et même en France, avec une bonne nouvelle, hein, la direction interministérielle du numérique, la DINUM, va passer ses postes de travail.
Pardon.
J'ai dit quoi?
J'ai dit DINUM.
Merci, cette émission serait... Il reste un quart d'heure, si vous êtes obligé d'écouter l'émission. Donc, on va passer ses postes de travail sous Linux.
Il était temps.
Bref,
non.
La gendarmerie, il l'a déjà fait depuis.
Voilà, la gendarmerie, il l'a déjà fait depuis un certain temps. Donc là, il y a deux, trois trucs que je trouve assez intéressants. Le fait que ce soit basé sur du NixOS et ils ont fait leur propre distribution, en fait. Donc, Securix, je vais suivre un petit peu parce que ça peut être rigolo. Donc, qui est conçu comme sécurisé et réinstanciable pour différents cas d'usage. Donc, un poste multi-agent, un poste multiniveau, des postes en intranet seulement, avec des VPN, etc. Donc, moi, j'avoue, je suis assez curieux de ce qu'ils sont en train de développer, et c'est vraiment, c'est assez intéressant, et c'est... Là aussi, futur dégeekalisation, j'ai pas mal de sujets qui commencent à s'accumuler sur les distributions Linux modernes, parce que là, ben, pour le coup, c'est ce qu'ils sont en train de construire. Donc, à suivre. Il y aura des plans qui vont être développés dans chaque ministère, il y a aussi des volontés de développer des suites de logiciels, donc dérivés de logiciels libres, mais adaptés donc, pour l'usage des différents ministères et organismes. Donc, on verra. La DINUM, en tout cas, est leader là-dessus pour essayer de remplacer ben voilà les Exchange, les SharePoint, les Office, les Teams, tous ces outils-là, et ils sont trop nombreux.
Alors, les possesseurs de smartphones Android ou Apple, même si ceux d'Android peuvent éventuellement, mais c'est difficile, utiliser des applis tiers, doivent passer en général par le store officiel donc, du système d'exploitation pour télécharger des applications. Et quelle est une des justifications de la part de Google et d'Apple? C'est oui, mais nous, on contrôle ces applications, elles sont... Alors, c'est sécurisé. Si vous téléchargez hors de notre portail, eh ben, vous risquez de télécharger des applications malveillantes. Sauf que, vlati pas que, il s'est retrouvé des applications malveillantes validées par le store d'Apple et de Google.
Exactement. Donc là, ben, c'est des applications d'arnaque de crypto, c'est des applications qui poussent à faire des souscriptions malveillantes, c'est... Il y a tout ce qu'il faut hein, dedans. Il y a des trucs qui s'appellent free cash. C'est bien, bien mesquin, quoi. Donc, l'idée, c'est de vous rediriger vers des sites où vous pouvez dépenser de l'argent pour voir des publicités, etc. Il y a tout ce qu'il faut. C'est 100% malveillant. Dès qu'on les signale à Apple et Google, ils les suppriment. Mais en fait, pourquoi vous faire payer une dîme de 30%? C'est 30%, c'est énorme. C'est un comportement mafieux de demander de tels montants à chaque application si c'est à la fin pour ne rien faire. Et on a...
Il n'y aurait pas un petit abus de position dominante dans l'affaire.
Voilà. Sachant que de son côté, je trouve ça aussi assez drôle, Apple a menacé de suspendre Twitter sur son App Store parce qu'il y a des deepfakes pornographiques dessus. Ok ? Alors, vous auriez dû suspendre hein, plutôt directement. C'est autre chose. Et qu'est-ce que vous faites pour toutes les autres applications qui sont sur vos stores et que vous n'avez pas encore su...
Quoi ? Il y a des gens à qui il est plus compliqué de se fâcher quand même.
Ouais, mais là, c'est peut-être mérité au bout d'un moment, ce genre de saloperie, peut-être arrêter de les tolérer. Mais au-delà de ça, comment ça se fait que... Ben certes, alors oui, X et Grok sont des grosses saloperies, mais il y en a d'autres qui sont toujours présents sur le store. Et il faut attendre que des gens les signalent. Ah ouais, mais en fait, vous êtes censé filtrer, vous êtes payé pour ça, mais vous filtrez pas. C'est quoi le deal? À quoi sert le pognon, à part, ben, c'est juste pour vous enrichir? C'est quoi le principe?
Une entreprise, Pierre.
Ouais, c'est ça.
Une entreprise privée. Tu n'es pas assez corporate. Allez, on passe aux nouvelles logicielles.
Ouais, on en a une grosse quand même avec les suites bureautiques.
Ouais, et Gentoo qui sort une variante de GNU Word.
Ouais, bon, oh, voilà. Ouais, hein, voilà. Ça fait rire, on l'a dit, c'est bon.
Et donc là, le gros sujet logiciel donc, de la semaine, c'est le chaos autour des suites bureautiques, Pierre. Raconte-nous tout ça.
Ouais, il y a du taf. Donc, on va commencer...
Il te reste 10 minutes.
C'est ça. Donc, on commence avec EuroOffice. On en a parlé il y a un mois, la sortie de EuroOffice. Alors, je regrettais le fait que ce soit un dérivé d'OnlyOffice. On va rembobiner la cassette un petit peu. Putain, je suis vieux. Merde. C'est ça. Donc, OnlyOffice est l'une des deux grandes suites bureautiques libres. Donc, il y a OnlyOffice, LibreOffice. OnlyOffice est une suite bureautique qui tourne dans les navigateurs web principalement. Et l'une de ses caractéristiques, c'est de faire... C'est vraiment de la copie de l'interface de Microsoft Office. Ça en est assez flagrant. Et ils utilisent même par défaut le format de Microsoft Office. EuroOffice est une suite bureautique développée par un ensemble d'acteurs européens dans le but de fournir une suite bureautique basée en Europe. Et ça tombe bien, OnlyOffice est basé sur... est développée par une entreprise en Europe. Donc c'est bien, c'est très bien. Sauf que bah, EuroOffice, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de forquer OnlyOffice. Il y en a trop, j'en peux plus. Et en plus, les noms, ils sont pas originaux, c'est pas possible, quoi. EuroOffice a choisi de forquer OnlyOffice. Pourquoi donc? Ben, pour deux raisons. OnlyOffice restreint les contributions extérieures. C'est leur choix.
Ils ont...
Mais pour toi, c'est pas un vrai projet libre, un vrai logiciel libre.
C'est libre au sens de
logiciel libre,
mais effectivement, les contributions extérieures sont pas forcément les bienvenues. Et le deuxième problème, c'est que cette solution est développée par notamment, ils essayent de le cacher, mais ça se voit clairement, par une entreprise russe. Donc pour un projet souverain européen, ça fait mauvais genre.
Après, la Russie a quand même l'essentiel de sa population en Europe.
On va s'arrêter là tout de suite. Hein. On n'a pas envie de recevoir de petites visites chez nous. Mais donc, la première bisbille rigolote, suite à ce fork, donc à cette création d'EuroOffice sur la base de NeoOffice, où ben, pour l'instant, ils ont juste supprimé les logos renommés et commencé à faire 2-3 petits changements de leur côté, OnlyOffice a dit « Non, mais vous n'avez pas le droit, vous violez la licence. » Parce que ils ont choisi d'utiliser la licence AGPL et ils ont dit « Mais si, regardez, la section 7 de la licence AGPL autorise l'ajout de clauses supplémentaires qui sont obligatoires à respecter. » Et donc, les clauses obligatoires, c'est l'obligation de conserver le logo. Et donc, le logo de OnlyOffice étant déposé, un fork devient de facto impossible. C'est bizarre. Sauf qu'en fait, ben c'est interdit. Les juristes de la Free Software Foundation ont dit « Non mais, n'importe quoi, vous n'avez pas le droit de restreindre comme ça. »
Sinon, c'est plus un projet, c'est plus un logiciel libre pour le coup.
Voilà. Donc, ben, EuroOffice va vraiment continuer. Donc, c'est porté par Yonos, Nextcloud, XWiki, OpenProject, Eurostack, Sovereign, Proton, Abilian et Betactic. Donc, à suivre. J'avoue que moi, je suis vraiment pas méga fan du choix de solution technique. On continue là-dessus. Deuxième sujet de chaos, Nextcloud, donc un outil de cloud que l'on peut héberger nous-mêmes. L'outil de bureautique intégré par défaut dans Nextcloud, c'est Collabora Online, donc qui est un dérivé de LibreOffice, dont le format natif est le format Open Document. Sauf que il se trouve que les gens, des utilisateurs, auraient dit au projet Nextcloud que « Ah ouais, mais pourquoi ça sauvegarde pas les fichiers avec une extension DocX? Ça serait mieux. » Et donc, le projet Nextcloud a accepté de modifier par défaut l'enregistrement pour que ce soit du Office OpenXML, donc le format de Microsoft Office, plutôt qu'Open Document. Avec deux conséquences. Du coup, la première, ça fait la promotion d'un format qui est fermé, et qui est d'ailleurs refusé par l'Allemagne. L'Allemagne impose désormais à ses administrations un format ouvert, donc le format Open Document. Et le deuxième problème qui fait que je trouve ça particulièrement stupide, c'est que ça peut être très bien supporté par LibreOffice, le format Office OpenXML, ça reste un mode de compatibilité, de la même façon que le format Open Document est supporté par Microsoft Office comme un mode de compatibilité. Donc je ne comprends pas du tout l'intérêt de ce bug, à part dire, eh ben, on va prendre en charge, on va créer des bugs nous-mêmes chez nous, plutôt que de montrer que ben, il y a peut-être des bugs sur le support d'Open Document chez Microsoft, ben vous faudra leur signaler. Je trouve se battre en retraite comme ça sans même se battre, je trouve ça un peu chelou. Donc je viens de le mentionner, donc Open Document, c'est tout nouveau, hein, ça vient d'être imposé comme format de référence en Allemagne auprès des différentes administrations.
Alors fédéral du coup ou...
C'est fédéral je crois, ouais. Oui, c'est au niveau fédéral.
Ça ne passe pas forcément au Hollande.
Ouais. Merci, c'est vrai qu'en plus c'est ce niveau-là. Non mais c'est franchement. Et on va finir dans les sub-bureautiques, franchement, je ne sais pas ce qu'ils ont eu ces dernières semaines, hein, faire plein de trucs là-dessus. Il y a en plus des bisbilles auprès de la Document Foundation qui gère LibreOffice, avec tout un ensemble de membres de Collabora qui ont été retirés de force du comité de gestion de The Document Foundation. Donc, y compris des gens qui étaient des grands noms au sein de la Document Foundation, des gens qui contribuent énormément depuis sa création à LibreOffice, parce que en fait Collabora, donc qui est l'un des principaux contributeurs de LibreOffice, a créé sa propre version de LibreOffice en version web, mais ça ne plaît pas et c'est considéré comme un fork, et du coup il y a de la grosse bisbille en interne.
Et je voulais essayer les nouvelles sur les suites bureautiques.
Voilà, j'en peux plus. Surtout que le marché est mort, quoi. C'est, honnêtement.
On revient en bon vieux temps des sitcoms. On est vieux.
Oh non, mais c'est usant. Il n'y a pas la place pour plusieurs suites bureautiques en plus de Microsoft Office. Il y a déjà Microsoft Office et Google Docs qui se battent, et Microsoft qui ne fait que répondre aux changements de Google Docs et qui implémente à moitié les changements de son côté. C'est des trucs ridicules qui se passent chez Microsoft parce qu'ils investissent même pas sur le développement de Microsoft Office, ils en ont plus rien à foutre. Google, ils investissent à peine sur leur développement, parce que c'est juste leur but, c'est de choper les nouvelles entreprises, ils s'en foutent du marché existant. C'est n'importe quoi. Et personne ne veut payer une suite bureautique. Donc, c'est un jeu perdant pour tout le monde. Et ils sont tous là à se battre. Ça, c'est fatigant.
Bon, pour te remonter le moral, Pierre, quelques sorties logicielles ?
Ouais, allez.
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 Alors, je te sens revif, Pierre.
On va commencer par FreeCAD. Donc, c'est les gens qui souhaitent faire de la conception assistée par ordinateur. FreeCAD, donc nouvelle version 1.1. Alors, je ne fais pas de CAO ces temps-ci, donc je ne saurais pas vous décrire tout ce qu'il y a de nouveau, tout ce qu'il y a trop bien dedans. Mais voilà.
Il est vachement plus mieux.
Il est vachement plus mieux. Non, c'est l'un des principaux logiciels libres de CAO. C'est un très bon logiciel. Le peu que je l'avais utilisé il y a quelques années, il était déjà plutôt bien avant la sortie de la 1.0. Donc là, voilà, c'est une nouvelle version. Avec
sans oublier la version light, là, FreeCAD.
Merci, Alexandre. Autre sortie logicielle, Krita 6. Donc, Krita, logiciel de dessin. Pas confondre avec un logiciel de manipulation de photos. Hein, ce n'est pas du tout le même but. Donc, Krita, nouvelle version avec amélioration du support des fonctionnalités OpenType dans les polices de caractères. Hein, nous sommes dans le monde des graphistes. Il y a des tas de trucs.
Le dessin de
Golo.
KDE.
À la base du monde KDE, mais qui est disponible aussi sur Windows, sur macOS, sur tous les systèmes Linux. Meilleur support du HDR, donc meilleure gestion de couleurs. Hein. Je vais faire simple, je suis fatigué. Là. Meilleure gestion des fichiers Photoshop. La routine habituelle, et surtout la version 6, grosse mise à jour technique pour le passage à une nouvelle version de Qt 6. Et une dernière logicielle pour la route, hein, qui me fait rire. Nous avons parlé il y a je sais plus combien d'années du pilote NTFS3 qui apparaissait dans le noyau Linux en disant « Super, on a enfin un pilote NTFS complet dans le noyau Linux. » Sauf que aujourd'hui, ou plutôt avant-hier, un nouveau pilote a été mis à jour dans le noyau Linux. Un nouveau pilote NTFS, parce qu'en fait, il se trouve qu'en 2022, quand Paragon a contribué le pilote NTFS 3 au Linux, ils ont fait « Tenez, voici un pilote, on se barre, on le maintient pas, bisous !» C'est pas comme ça que ça marche, ça a un peu mis les gens du noyau Linux dans la merde, parce que c'est difficile de récupérer un code qu'on connaît pas et dire « Ah, ok, mais là, il y a pas de doc, on sait pas comment... » On sait pas. Oui,
parce que un code, même bien commenté.
Il était pas bien commenté.
En plus, il était pas bien commenté. Oui, effectivement, ça va pas aider du tout.
Ça va pas aider. Et donc là, quelqu'un s'est dit, je vais reprendre le vieux pilote NTFS d'il y a 20 ans. Putain, d'il y a 20 ans. Et le mettre à jour pour qu'il gère les dernières versions et tout ça. Le ressusciter. Et donc, on a à nouveau une résurrection du pilote NTFS, du coup, qui va remplacer le pilote NTFS.
Louis, on ferait l'annonce il y a 2 semaines pour Pâques, celui-là.
Ah ouais,
et Linux, donc le noyau qui commence à abandonner le 486 dans sa version 7.1.
Exactement, le processeur 486, le deuxième processeur, celui qui a succédé.
Le
386 sur lequel le noyau Linux a été développé. Et accessoirement, là, ça commence à sentir le sapin pour les systèmes 32 bits, il y a un changement qui a été fait dans le noyau Linux, où clairement...
Mais on pourra toujours mettre les anciens systèmes.
Voilà, on peut toujours mettre à jour les anciens systèmes, hein, mais les systèmes 32 bits, désormais, sont s'il y a des changements qui améliorent les performances pour tout le monde, sauf les systèmes 32 bits, ces changements sont acceptés.
Point sur l'agenda, on sera le mardi 28 avril pour le dernier mardi du mois, ce sera la permanence de l'association Linux. C'était le 296e numéro de
l'Écodignou.
On se retrouve dans 2 semaines pour l'Écodignou 297. On sera le 3 mai à 19h et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chupa Pimento. Merci, au revoir, bonne fin de week-end à toutes et à tous.
Bye bye.